Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce matin est Ronan Kerdraon. Il est président de Saint-Brieuc-Armor Agglomération. Il est également maire de Plérin et j'ajoute président de l'Association des maires des Côtes d'Armor. On va en parler des maires tout à l'heure dans le courant de cet entretien. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour.
Bonjour, merci de l'invitation. C'est avec plaisir que je reviens à chaque fois sur le site de Quessois, puisque nous sommes à Quessois.
Voilà, avec sans doute quelques studios qui vont essaimer dans les temps à venir. Ronan Kerdraon, on va parler des choses qui fâchent. Vous avez été pointé du doigt il y a quelques semaines autour d'une décision que vous aviez prise d'octroyer une subvention, en tout cas une aide conséquente, pour accueillir les chefs d'entreprise dans une loge VIP, on appelle ça comme ça, dans le cadre de Guingamp, en tout cas de Stade de Roudourou. Ça vous a été reproché. Vous aviez envie de réagir ce matin?
Oui, je crois qu'on peut faire de la politique sans prendre des attaques ad nominem, comme ça a été fait. D'ailleurs, la loge, les 5 places que Saint-Brieuc-Armor Agglomération a à Guingamp, c'est pas une décision qui a été prise récemment, hein, puisque cette décision remonte à 2010. À l'époque, c'était pas moi le président. Il y avait même 10 ou 11 places à l'époque. Nous, on a réduit la voilure à 5. Alors, j'entends que l'on peut contester et critiquer même le choix d'être présent à Guingamp à travers ces places. J'entends qu'on puisse critiquer aussi, bien sûr, les 19 900 et quelques euros qui sont consacrés à ces places. Pour autant, ce que je n'ai pas accepté, et que je n'accepte toujours pas, c'est les sous-entendus qu'il y avait, sous-entendus à peine voilés, comme quoi je serais en train de faire du détournement de fonds publics. Et ça, quand on fait de la politique, si on s'abaisse à faire ça, je considère que vaut mieux pas être, surtout quand on est candidat à des fonctions électives, comme la personne en question, dont je ne citerai pas le nom, parce que ça serait lui faire de la pub, et puis faire de la mauvaise pub à ceux qui portent le même nom. Donc, j'ai trouvé ça particulièrement dégueulasse. Après, j'ai eu l'occasion de remettre les choses au point en conseil d'agglomération. Ce que je peux dire quand même, c'est que au-delà des critiques qui ont pu être formulées à mon endroit, c'est que être présent à Guingamp, c'est aussi être au contact des chefs d'entreprise. Et oui, il y a à peu près 70 chefs d'entreprise, voire une centaine de l'agglomération briochine qui sont présents à Guingamp. C'est là aussi que se font les affaires, c'est là aussi où on peut discuter stratégie économique avec les chefs d'entreprise, politique fiscale, c'est là où, dans un contexte, oui, certes convivial, mais qui n'empêche qu'on puisse aboutir à des propositions, à des orientations et à une meilleure compréhension entre les uns et les autres. Donc cette loge, ou ces 5 places plus exactement à table, sont pour moi justifiées et j'ai pas de honte à mettre effectivement 19 900 euros sur ce volet-là, sachant que ce n'est pas du tout pris sur les associations ni sportives ni culturelles de notre agglomération. C'est vraiment une action spécifique et de communication en l'occurrence.
Voilà, c'était utile d'avoir cette mise au point. On vous approchait peut-être le fait que ça arrive dans un contexte particulier. On va en parler de ce contexte budgétaire contraint pour les collectivités territoriales comme vous les représentez, Ronan Kerdraon. Plus généralement pour les Français qui ont du mal et les Bretons qui ont du mal à vivre aujourd'hui, on a un budget qui risque de passer par le biais du fameux article 49 alinéa 3 de la Constitution, le fameux 49.3. Est-ce que pour vous, c'est dommageable qu'il n'y ait pas une réflexion? En tout cas, elle est en cours hein, dans les commissions et à l'Assemblée nationale, mais on sent bien que la réflexion n'ira pas jusqu'au bout. Est-ce que c'est dommageable pour la démocratie, pour la République, pour les collectivités aussi hein, qui sont attentives à ce qui se passe à Paris?
Peut-être la première chose à dire, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la réduction des déficits publics. Mais il faut quand même savoir que l'État est le premier responsable des déficits publics, puisque la dette de l'État, c'est 92% du PIB, alors que celle des collectivités, c'est 8%. Donc on voit bien qu'il y a une différence fondamentale. Dire également que nous, collectivités, nous avons l'obligation de présenter un budget en équilibre. Il y a la fameuse règle d'or, d'ailleurs, qui pèse sur les collectivités. Et la seule fois où les collectivités ont été ont été endettées, si je puis dire, en déficit, c'était au moment de la période Covid, où nous avons été déjà obligés de participer à l'effort, ce que nous avons fait d'ailleurs bien volontiers, évidemment. Alors, l'utilisation du 49.3, c'est vrai que c'est légal, c'est constitutionnel, c'est un artifice qui permet à un gouvernement de faire passer ses projets, ses décisions, mais le fait passer en force, et ça oblige la majorité à se compter, à un moment donné. Donc, il faut vraiment être sûr de vouloir utiliser le 49.3, c'est un peu à double tranchant, mais c'est surtout que ça empêche le vrai débat. Aujourd'hui, on voit bien, depuis des années, hein, c'est pas propre à ce nouveau gouvernement, on ne réfléchit pas sur qui fait quoi. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez un millefeuille administratif, politique, qui va de l'État, en passant par la région, les EPC, le département et les communes. Bien. Moi, je suis persuadé aujourd'hui qu'il nous faut une autre réforme, une vraie réforme de décentralisation, une vraie loi de décentralisation qui fasse que chacun ait des compétences propres et qu'à côté de ça, on ait le levier fiscal pour assumer ces compétences. Parce qu'on voit bien aujourd'hui, les collectivités n'ont plus les moyens de leurs compétences. Et on voit bien le département, par exemple, qui aujourd'hui, avec la perte des droits de mutation, eh bien, ne peut plus subvenir à un certain nombre de ses compétences. Donc nous allons être obligés de faire des choix, des priorités, mais pour cela, il faut aussi que l'État et que les parlementaires, le législateur, eh bien, donnent de vrais moyens aux collectivités.
On parle du retour de la taxe d'habitation qui avait été supprimée. On a vu aussi des Français, là aussi les Bretons, hein, râler sur le fait que les taxes foncières augmentaient, comme s'il y avait une forme de vase communicant quelque part. C'était peut-être ça finalement le truc, comme l'on dit. Est-ce que, plus sérieusement, il faut le retour de cette taxe d'habitation? Est-ce qu'il faut justement avoir ce levier fiscal, qui est le premier levier pour les collectivités?
Alors, moi je crois qu'il faut déjà se mettre d'accord sur un principe, il faut que la fiscalité soit attachée au territoire, que ce soit pour le particulier ou pour l'entreprise. Oui, je suis partisan, moi, que la taxe d'habitation revienne, en tout cas que les collectivités, que les communes aient le pouvoir de voter une part de taxe d'habitation. Ça me semble important parce que, à un moment donné, c'est quand même bien les collectivités, et le maire en l'occurrence, qui seront en frontal de leurs administrés. Et lever l'impôt, c'est pas un gros mot, pour peu qu'on mette des services publics en face. Ce qui serait indécent ou irrespectueux, ça serait de lever l'impôt et de ne pas mettre de services publics. Moi, je vois à Plérin, on a des services publics. Quand j'ai augmenté en 2010 les impôts de 10%, il y a eu bien évidemment une levée un peu de bouclier, mais on a été capable d'expliquer pourquoi on le faisait et à quoi servait l'impôt qu'on levait. Et à partir du moment où on explique cela, je pense que les gens comprennent. Mais on pourrait citer la même chose sur la CVAE des entreprises, qui aujourd'hui a été annulée et remplacée par une part variable de la TVA. On voit bien que la TVA aujourd'hui sert à toutes les sauces, et le gouvernement, dans son projet de loi de finances 2025, a décidé de réduire le taux de TVA pour les collectivités. Donc c'est le chien qui se mord la queue, quoi. À un moment donné, on ne peut pas faire des réformes à la petite semaine. Il va falloir aujourd'hui prendre conscience qu'il faut une vraie grande réforme administrative, territoriale et fiscale.
Est-ce que vous parliez tout à l'heure, Ronan Clerdraon, de décentralisation? Le mot autonomie a aussi été prononcé, je pense au président de la région, Loïc Chesnais-Girard, qui a dit pourquoi ne pas donner plus d'autonomie aux régions, alors avec les moyens qui vont avec, évidemment, ce qui permettrait peut-être des économies, puisque finalement les élus de terrain, et on parlera des maires tout à l'heure, les élus de terrain sont ceux, par définition, qui connaissent le mieux le terrain et qui peuvent savoir où investir ou ne pas investir.
Moi, je suis tout à fait en phase avec le président de la région, hein, Loïc Chesnais-Girard, a eu tout à fait raison de dire qu'aujourd'hui, il est grand temps qu'on passe à un acte, je ne sais pas, 2, 3, 4, j'en sais rien, en tout cas, un véritable acte de la décentralisation qui permette de donner à un certain nombre de collectivités un pouvoir de décision réel. Et il me semble que l'échelle régionale est le bon niveau pour avoir cette autonomie, on l'appelle comme on veut, hein, mais en tout cas, il faut qu'à l'intérieur de ce mot-là, on ait un vrai pouvoir politique, de vraies compétences et un vrai levier fiscal.
Ce qui permettrait peut-être aussi à la politique et aux élus de terrain qui sont par définition sur le terrain, mais qui sont proches des administrés, peut-être de pouvoir mieux expliquer, de pouvoir aussi être mieux en phase avec les attentes justement de ces administrés.
Alors être en phase avec les attentes des administrés, mais être responsable aussi réellement devant les administrés. Parce que quand on décide de lever l'impôt, on le décide sur des politiques que l'on met en œuvre, des politiques publiques que l'on met en œuvre, que ce soit sur l'école, en tout cas pour les communes, sur les lycées, pour en parler de la région, sur les aéroports, sur les ports. On est vraiment sur des décisions que nous sommes amenés à prendre. Donc, à partir de ce moment-là, que l'on ait la politique fiscale, ça me semble normal. Par contre, si la politique fiscale est ailleurs, c'est vrai qu'on déconnecte complètement les choses et on laisse penser quand même que c'est quand même la collectivité qui lève l'impôt, alors que c'est les taux sont fixés dans les lois de finances.
Avec des alertes, on a vu le Rassemblement national beaucoup monter lors des dernières élections, une forme de vote de refus, de colère. Comment ramener ces électeurs qui ont envoyé un signal très fort se réapproprier finalement l'espace politique ?
Alors je crois que d'abord, il faut qu'on retrouve le sens des notions politiques, à savoir qu'est-ce que la droite, qu'est-ce que la gauche. À un moment donné, il faut aussi clarifier cela. Après, il faut éviter les discours stigmatisants. Je crois qu'aujourd'hui, un électeur qui vote Rassemblement National ou qui vote de l'autre côté à l'extrême gauche, il faut se poser la question pourquoi. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, l'un des vrais problèmes pour nos concitoyens, c'est pas le pouvoir de vivre, c'est le pouvoir de survivre. Et aujourd'hui, la fin du mois, c'est plus le 15, c'est le 10. Mmh. Donc ça veut dire qu'effectivement, il faut qu'on repense tout à fait la place dans la société, la notion de solidarité. On a beaucoup parlé ces derniers mois aussi du financement de nos EHPAD. On voit bien qu'on arrive au bout, sur plusieurs systèmes, au bout d'un système. Et donc, il va falloir repenser nos logiciels en matière de solidarité. Il y a ce qui relève de la solidarité nationale et ce qui relève de la solidarité locale, mais il faut qu'on soit vraiment beaucoup plus clair et transparent et offensif là-dessus.
Alors, il y a aussi les préoccupations. On dit aujourd'hui que, selon une dernière étude sortie il y a quelques jours, c'est la santé qui préoccupe le plus les Français aujourd'hui. C'est le cas aussi ici en Bretagne, où on peine à trouver un médecin, pas seulement en zone rurale, parfois même en zone urbaine, trouver un médecin, se faire accueillir décemment à l'hôpital. Est-ce que là, les élus doivent aussi tirer la sonnette d'alarme et peut-être aller un peu plus loin? On a vu des mobilisations à Guingamp, on parlait de Guingamp tout à l'heure, importantes à Carré également. Est-ce qu'il faut pousser le bouchon un peu plus loin, obtenir de l'État qu'il y ait un retour d'un véritable système de santé efficace?
Oui, alors tout d'abord, je crois qu'on doit se satisfaire, nous, en France, que c'est bien notre carte vitale qui sert quand on rentre à l'hôpital et non pas notre carte bancaire comme dans d'autres systèmes. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, il faut qu'on préserve cela. Alors aujourd'hui, on voit bien que la préoccupation majeure, c'est effectivement la santé, mais j'allais dire sous toutes ses formes. Aussi bien l'accès aux premiers soins que l'accès à un spécialiste. Moi, quand j'étais sénateur, donc dans les années 2010-2014, on avait déjà fait ce constat. Donc, c'est pas d'aujourd'hui qu'on fait ce constat. Sauf que rien n'a été fait, ou très peu en fin de compte. Et aujourd'hui, on voit bien les collectivités, si je prends Saint-Brieuc-Armor Agglomération, avec Thierry Simelière, on s'est saisi de cette problématique en créant, alors que ce n'est pas notre compétence, en allant sur le terrain, soit des centres municipaux de santé, comme il y a à Plérin ou à Saint-Quay-Portrieux. Il y a la problématique de faire des centres intercommunaux de santé. On a un projet, nous, à l'agglomération, de faire un médicobus, donc, qui irait dans les communes. Donc oui, ce constat, on le fait, et on supplée là encore l'État. C'est pour ça qu'on trouve particulièrement injuste cette espèce de hold-up qu'est en train de nous faire le gouvernement sur... sur nos compétences et nos finances. Et ça, aujourd'hui, il y a une urgence.
Alors, il y a l'urgence sur les finances, évidemment, on l'aura compris, sur les territoires. On voit des maires aujourd'hui qui ne veulent plus. D'ailleurs, on aura des élections en 2026, les élections municipales, qui ne veulent plus y aller parce que ça devient trop compliqué. Ils n'arrivent plus non plus à boucler leur budget. Ce sont souvent des petites communes. On a aussi des alertes. On pense aux alertes qui ont été lancées par les présidents des départements, en l'occurrence pour les Côtes d'Armor, la Loire-Atlantique ou encore l'Ille-et-Vilaine, qui disent attention, si on continue, si le budget continue dans ce sens, nous on ne pourra pas boucler si on nous demande encore 5 milliards alors répartis évidemment entre les différents des différents départements et collectivités, mais si on nous demande 5 milliards d'efforts, on n'arrivera pas à boucler. Comment ça se passe par exemple pour Saint-Brieuc-Armor Agglomération? Comment arriver à boucler le budget dans le contexte actuel?
Déjà aujourd'hui, dans le contexte actuel, l'impact des annonces faites par le gouvernement sur l'agglomération, c'est 4 millions d'euros de fonctionnement en moins. Or, 4 millions d'euros de fonctionnement en moins, c'est 40 millions d'investissements en moins. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai pris la décision au niveau de l'agglomération, mais aussi au niveau de la ville de Plérin, c'est de repousser le vote du budget primitif à 2025, alors mars-avril 2025, tout simplement pour pouvoir faire les arbitrages nécessaires, on va attendre les différentes mesures qui seront votées, parce qu'effectivement il y a le 49.3 qui est annoncé, qu'on puisse faire les arbitrages, qu'on puisse parfois eh bien, lisser un certain nombre de mesures. Il y a peut-être des projets effectivement qu'on fera sur une durée plus lointaine, ou d'autres qu'on sera obligé d'arrêter.
Il y a des choix qui peuvent être cruels, finalement.
Oui, bien sûr, il y a des choix qui peuvent être cruels, parce que c'est pas que ces choix-là sont inutiles, puisqu'on les avait faits, c'est qu'aujourd'hui, dans le contexte budgétaire qui est le nôtre, eh bien, on ne peut pas tout faire. Et sans doute serons-nous obligés, les uns et les autres, de revenir sur nos compétences obligatoires, et ensuite voir avec ce qui reste qu'on peut faire. Donc oui, ça va demander beaucoup de créativité, d'agilité, mais aussi de responsabilité, parce qu'il ne faudra pas laisser croire à tout le monde qu'on pourra tout faire, parce qu'il y a une vieille expression qui dit « on ne reste jamais gratis ».
Non, il y a toujours quelqu'un qui paie au bout finalement. Est-ce qu'il faut aussi avoir une réflexion alors plus politique, plus transpartisane? On sait que dans les communes, souvent les réflexions sont moins politiques et plus transpartisanes justement sur des projets, sur des votes de budget. Dans le cadre d'une agglomération, c'est pareil, il faut aussi avoir cette réflexion, j'allais presque dire de responsabilité.
Oui, tout à fait. Alors c'est pas le contexte d'aujourd'hui qui nous y oblige. Nous, ça fait partie de l'ADN de Saint-Brieuc-Armor Agglomération hein, depuis des années, d'être sur cette gouvernance partagée, comme on dit, hein, puisque moi je suis le président et ma première vice-présidente Sylvie Guignard est d'une des minorités. Donc effectivement, on travaille ensemble sur tous les projets. Il y a des débats, il y a des échanges, il y a des comités de pilotage transpartisans. Et si je prends l'exemple de l'impact du projet de loi de finances 2025, eh bien je vais proposer tout à l'heure en bureau exécutif, donc c'est une exclusivité, je vais proposer en bureau exécutif de ce matin que l'on mette en place un comité de pilotage avec toutes les forces, les sensibilités politiques à l'intérieur de ce groupe de pilotage et avec ce qu'on aura comme règle du jeu, si je puis dire, eh bien nous allons décider collectivement et ensemble de faire un certain nombre de propositions au bureau de l'agglomération, mais aussi ensuite au conseil d'agglomération. Et comme ça sera fait dans la plus grande transparence. Et oui, on appelle au sens des solidarités, mais on ne le fait pas qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que depuis des années, c'est la politique et la pratique que nous avons dans cette agglomération que de le faire. Donc je pense que on a un petit temps d'avance peut-être par rapport à d'autres. Et c'est vrai que par rapport à une commune, par exemple, où il y a une majorité et des minorités qui sont plutôt des oppositions, moi je dis qu'à l'agglomération, on a une majorité, certes, mais des minorités. Il n'y a pas d'opposition, il y a des débats, il y a des échanges. Et moi, ça me va très bien.
C'est peut-être la solution aujourd'hui, on parlait de décentralisation tout à l'heure, de dialogue politique, voilà, un peu au-delà des idées. C'est peut-être la solution pour gouverner demain et on peut l'imaginer aussi à un plus haut niveau.
Oui, pourquoi pas. Mais je pense que la période Macron a masqué cela, ou en tout cas a fait disparaître, en tout cas officiellement, les clivages. Aujourd'hui, moi, je le vois bien, dans notre agglo, effectivement, on est sur cette gouvernance partagée, on ne masque pas nos idées. Dans cette gouvernance partagée, on échange sur des idées, sur des politiques, sur des valeurs. Qu'est-ce qui empêcherait les uns et les autres de faire la même chose? Maintenant, il ne faut pas laisser croire que tout le monde pense de la même manière. Alors, je ne sais pas quelle était l'idée du président Macron à l'époque, mais en tout cas, aujourd'hui, la conséquence et l'image que ça en a donné, c'est qu'il a voulu détruire la gauche dans un premier temps, détruire la droite, ce qui s'est passé, les uns et les autres, mais pas dans le sens, effectivement, le partage des idées et avancer ensemble, et le bien vivre ensemble. Et ça, on constate que cette période-là a plutôt été négative pour cette notion de partage de débat d'idées.
On voit aujourd'hui une France fracturée, la Bretagne n'échappe pas, lorsqu'on scrute un petit peu les réseaux sociaux, à cette fracture, à ces grandes colères, ces invectives parfois au niveau politique ou même en dehors de la politique. On voit une montée, on parlait tout à l'heure de Rassemblement National, on voit une montée de la colère des Françaises, des Bretons, des Français, des Françaises et des Bretons, évidemment. Cette colère qui se traduit dans les urnes, est-ce que c'est inquiétant pour la suite? On voit qu'il y a un mouvement quand même au niveau des pays européens qui tend à aller quand même vers une droite plus conservatrice.
C'est inquiétant parce que ce sont les moyens légaux qui permettent d'accéder au pouvoir. Je ne vais pas refaire l'histoire d'Hitler en Allemagne, mais les forces extrémistes sont arrivées au pouvoir de manière légale. Alors après, ils l'ont conservé de manière autoritaire. Mmh. Mais moi, ça m'inquiète de ce côté-là, effectivement, parce que ce qui pouvait être concerné quelques catégories socio-professionnelles ou sociales touche aujourd'hui une très grande partie de la population. Et il y a un élément qui est sorti, une enquête qui est sortie dans la Gazette des communes, qui dit que de plus en plus de fonctionnaires sont sensibles au vote Rassemblement National. Donc ça, ça doit nous interpeller. Et là, je trouve que les décisions qui sont prises aujourd'hui par les différents gouvernements, eh bien, ne font que renforcer ces votes. Donc oui, je suis inquiet, parce que quand on voit qu'on vote Rassemblement National très fortement dans certaines petites communes rurales, alors que l'immigré, c'était ça à l'époque, l'immigré vient du canton voisin ou de la commune voisine, ça devient compliqué. Mais il faut aussi voir le rôle des médias, et je pense notamment des médias qui font de l'information en continu. Je pense notamment à deux grandes chaînes d'information qui rabâchent toutes les heures les mêmes choses. Je pense qu'on devrait plutôt aider les petites stations et non pas leur ponctionner 10 millions ou 10 milliards, je ne sais plus, 10 millions.
10 millions,
10 millions, millions sur leur Z. Ça permettrait peut-être d'avoir une information à la fois plus proche du terrain et peut-être plus objectif.
Mais en tout cas, on s'y emploie au quotidien à Bretagne 5 et dans les autres radios associatives. Hein, je rappelle pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi le dossier, voilà le projet de loi de finances. Donc, nous promet, si j'ose dire, une réduction de 10 millions de fonds de soutien à l'expression radiophonique qui permet à nos radios de vivre. Voilà, c'est important de situer finalement. Justement, parler du rôle des médias, on regarde aussi aujourd'hui de l'autre côté de l'Atlantique avec une élection qui va arriver très vite maintenant dans une quinzaine de jours avec le retour possible de Donald Trump. On sort un petit peu du local, mais finalement ça peut aussi avoir quelques interactions avec l'Europe, avec la France et peut-être même avec les territoires. C'est inquiétant cette montée justement du populisme, y compris dans un pays comme les États-Unis.
Alors on sait que la vie politique aux États-Unis est très particulière, hein, puisque contrairement à en France par exemple, vous votez pour le président de la République, mais vous votez aussi pour toute l'administration américaine, jusqu'au shérif du comté. Donc oui, c'est inquiétant surtout qu'on voit que n'importe qui, Donald Trump, n'importe quel battleur d'estrade peut être candidat et peut exercer la fonction de président de la République. On l'a vu en Italie il n'y a pas très longtemps. Oui, mais c'est le système électoral qui permet ça, mais c'est surtout, effectivement, parfois une non-maturité à la fois des partis politiques, mais aussi de nos concitoyens. Donc je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire, vraisemblablement. Les élus ont aussi beaucoup de responsabilités en la matière, mais effectivement, Donald Trump, à nouveau à la tête des États-Unis, il y aura, me semble-t-il, des conséquences importantes pour l'Europe, notamment, et pour l'Union européenne. Et on rentrerait, je pense, dans une logique encore d'affrontement, voire de rupture avec d'autres partenaires. Donc oui, moi, ça m'inquiète.
Avec aussi, puisqu'on parle de l'Union européenne, peut-être des conséquences si le dollar n'était peut-être plus la monnaie la plus forte. On entend aussi les BRICS s'exprimer du côté de chez Vladimir Poutine. Ça voudrait dire aussi peut-être moins de moyens pour... Là, les territoires, pour le coup, qui sont financés par les fonds européens, enfin en tout cas pour certains projets.
Oui, on peut légitimement se poser la question. Maintenant, j'attends quand même de voir réellement quel sera le vote des citoyens américains. Alors je reste toujours optimiste parce que c'est peut-être l'occasion aussi pour l'Union européenne d'affirmer sa position, d'affirmer sa force entre les deux grands, comme on dit, hein, États-Unis et Russie. C'est peut-être une opportunité, je dirais. Comme nous, on a des opportunités en France, il y a des moments où il faut à la fois faire preuve de réalisme, de pragmatisme, mais aussi d'optimisme. Moi, je dis souvent, c'est pas parce qu'on a des contraintes qui nous pèsent dessus qu'il ne faut pas être ambitieux. Au contraire, il faut l'être encore plus.
Voilà, porter l'ambition contre vents et marées. Donc on a senti quand même, Ronan Cadran, que vous aviez une forme d'optimisme, c'est important aujourd'hui en politique. Je parlais tout à l'heure des maires, je disais, il y a une forme, là, pour le coup, de pessimisme. On parle aussi beaucoup des jeunes, on les reçoit sur cette antenne sans faire de jeunisme, mais on les voit très engagés pour le climat, très engagés pour la politique, tout simplement, la chose politique. Est-ce que c'est peut-être que là aussi que se trouve une des clés du futur et peut-être... Voilà, des idées peut-être plus osées, plus allantes que les grands devanciers. Je ne vais pas me faire que des amis.
Non, je crois qu'effectivement, que les jeunes s'intéressent à la politique, c'est une bonne chose. Au contraire, quand c'est avec des idées neuves. Parce que si c'est pour reprendre les vieilles idées, je veux dire, c'est être vieux avant d'être jeune, comme dirait l'autre. Donc oui, je pense que la volonté, en tout cas, nous, au niveau de l'AMF, ce qu'on regarde aussi, c'est le sentiment qu'ont certains élus. J'ai discuté avec mon collègue maire d'Erquy il y a quelques mois, lorsque je suis devenu président de l'AMF, qui lui me disait très clairement, je ne me représenterai pas. Parce que effectivement, on est victime de violences, d'atteintes. Alors c'est vrai que ce qui était à l'époque, quand moi j'étais élu en 2008, des violences verbales sur les réseaux sociaux, deviennent aujourd'hui des violences physiques, des agressions physiques. On a vu ce qui est arrivé à Hervé Guihard, le maire de Saint-Brieuc, ce qui est arrivé, et je dirais que je ne mets pas de niveau de gravité entre les deux, mais les freins de ma collègue maire de Plougrescamp, les freins de voiture qui ont été sabotés. Dire, aujourd'hui, on sent comme... une forme d'impunité, alors que ce n'est pas le cas, hein, puisque la justice, le procureur de la République dans ce département fait ce qu'il faut pour sanctionner et en fonction des délits commis. Mais on voit bien qu'il y a une forme de libéralisation, non plus de la parole, mais de l'acte. Mmh. Et que parfois, d'ailleurs, les élus ont intérêt à faire attention dans les propos qu'ils peuvent tenir sur leurs collègues, parce que ça légitimise aussi... des actions menées par des concitoyens. Donc,
on a attention. Franchi un cap.
Oui, je trouve qu'on a franchi un cap. Ce cap a été franchi, je pense, avec la période Covid, où tout le monde, beaucoup de gens se sont repliés sur eux-mêmes. Et il y a eu le sentiment de complotisme qui, et d'ailleurs qui perdure hein, encore aujourd'hui.
On les voit sur les réseaux sociaux.
Et là aussi, je suis désolé, mais les réseaux sociaux... on peut dire tout ce qu'on veut sur les réseaux sociaux sous couvert d'impunité, voire d'anonymat. Et aujourd'hui, quand on porte plainte contre quelqu'un, on sait bien que si c'est sur Facebook ou autre, eh bien, la législation ne permet pas aujourd'hui d'aller rechercher le vrai auteur. Il y a beaucoup de faux profils sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Donc oui, c'est, de ce côté-là, c'est inquiétant. Mais au niveau de l'AMF, nous, on est vraiment optimistes dans le fait de dire, voilà, être maire, c'est une magnifique fonction, c'est encore l'élu qui est le plus considéré par nos concitoyens. Il y avait une expression qui disait il y a quelque temps, le maire est à portée de baffe. Malheureusement, c'est de plus en plus pire que cela. Donc non, je crois qu'aujourd'hui, pouvoir agir pour le quotidien et la solidarité dans sa commune, c'est vraiment une belle fonction. Et moi, je ne peux qu'inviter toutes celles et tous ceux qui sont sortants ou qui ont envie d'être candidat, de l'être, parce que oui, c'est une mission de service public là aussi.
J'ose vous poser la question, c'est peut-être très prématuré, mais vous vous représenterez en 2026 ?
C'est pas impossible.
Voilà, eh bien écoutez, on en prend bonne note et on vous reposera la question quand vous reviendrez. Ronan Cadran, président de Saint-Brieuc-Armor Agglomération, maire de Plérin, pardon, Plérin-sur-Mer même maintenant, président de l'Association des maires des Côtes d'Armor, l'AMF, hein, vous l'avez cité tout à l'heure. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin en direct dans la matinale. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci, très belle journée aussi. Et puis bonjour aux pronostiqueurs hippiques que vous avez.
Voilà, Patrick Huffard, on sent les affinités. Merci infiniment.
Merci à vous.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.